Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Et voici mon exposé de juin, le dernier de l'année scolaire. Après, je vais terminer donc les valeurs, et après avoir parlé du service et du respect, je voudrais vous entretenir de la fidélité. Pour compléter le respect et le service, je propose comme valeur la fidélité, la confiance réciproque, sans laquelle les relations humaines ne peuvent que sombrer dans un juridisme dévastateur car fondamentalement inhumain. J'évoquerai un souvenir personnel. Au cours d'une mission aux États-Unis qualifiée de commerciale, nous cherchons à exporter une technique française. L'attaché commercial de l'ambassade de France, après nous avoir souhaité la bienvenue, continua par ses propos. Il y a certes de très bonnes affaires à faire dans ce pays, mais soyez prudents. Les contrats sont rédigés pratiquement sans ponctuation et seule l'interprétation des avocats est considérée. Sachez que dans ce pays, la bonne foi n'existe pas. J'entends encore ces derniers mots qui, à l'époque, c'était il y a une centaine d'années, ont résonné comme un glas. Des événements récents montrent que les choses ne sont pas arrangées. Une promesse quelconque aux États-Unis ne pouvait être reçue que selon un contrat assorti de pénalités. Tout se règle selon des procès, avec toutes les monstruosités qui en résultent. Il y a une analogie certaine entre l'infidélité et le mensonge. D'un côté, des gens comme Talleyrand, dont certains ont dit « il ment comme il respire, peut-être même un peu plus vite », de l'autre côté, son contemporain, le duc de Richelieu, ni le cardinal, ni le régent, mais le fondateur d'Odessa, dont son ami le tsar disait, lors du congrès de Vienne en 1815, « Sa parole vaut un traité », ce qui serait une de mes devises si on me demandait d'en choisir une. On pourrait dire que la fidélité commence avec la politesse, en particulier par l'exactitude au rendez-vous, au délai de livraison ou de paiement, et à n'importe quelle promesse. La fidélité aux promesses faites dépend évidemment de deux conditions. Il faut se garder de faire des promesses à l'étourdi, et il faut avoir le courage de s'engager sérieusement sur un plan concret. Les personnes qui tergiversent sans arrêt, en disant « je ne sais pas, on verra plus tard, je ne peux rien dire », sont de fait des monstres d'égoïsme. Et n'oublions pas, dans la vie de tous les jours, les menus intentions, tels que les souhaits de fête, d'anniversaire, de Noël ou de jour de l'an. Certes, un courriel peut remplacer une lettre, mais ces petites pensées sont la marque d'une fidélité dans l'amitié. La fidélité suppose qu'on accorde une valeur réelle à son prochain. La fidélité, dans le cadre de la profession, la fidélité des employés est indispensable pour la bonne marche d'une entreprise. Comme le montre à contrario une anecdote glanée dans je ne sais plus trop quel document, un candidat est agréé dans une entreprise américaine, toujours. Lors de son intronisation, le directeur lui dit « Compte tenu de nos entretiens et de ce que nous savons de vous, nous avons toute confiance en vous. » Mais, comme les statistiques montrent qu'il y a une chance sur 100 ou sur 1000, peu importe, que vous soyez un truand et que nous ne voulons courir aucun risque, principe de précaution, nous vous considérons comme un truand. Au fait, le directeur était-il honnête lui-même? Une telle atmosphère dans une entreprise est-elle efficace ou simplement supportable? On ne peut gouverner efficacement que s'il règne un minimum de confiance entre les agents d'une entreprise, que ce soit dans l'énoncé des missions données que dans la rédaction des comptes rendus qui en résultent. Sans se croire obligé de tout vérifier par le menu, il est certain qu'il faut qu'une confiance règne et qu'on dise « bon ben il me l'a dit, donc c'est vrai ». Il est symptomatique de constater que dans notre monde industriel, il faut compter 4 ou 5 contrôleurs pour un seul qui travaille. Cela est d'autant plus risible que les contrôleurs n'ont d'autre responsabilité que de distribuer des pénalités, leur seule obligation étant d'en mettre suffisamment. On ne contrôle jamais la justesse du contrôle. On ne fait plus guère appel à cet aspect de la fidélité que l'on nomme la conscience professionnelle. La bonne foi n'existe pas. Les histoires d'espionnage, d'agents doubles ou triples, dont nous gavent les moyens actuels de communication, sont un véritable poison pour la vie sociale. Tout ne finit plus par des chansons, mais par des crimes ou des règlements de compte. Fidélité en amitié, ou plutôt en amour, au sens grec du terme, qui englobe trois sortes d'amour, Eros pour soi, Philia la coopération et Agapé le dévouement. Dans ce domaine, la fidélité est fondamentale. Sinon, c'est que l'on considère l'autre comme un outil, une distraction, une matière consommable. Notant en passant que la fidélité suppose une possibilité, une nécessité de pardon, car l'esprit est prompt mais la chair est faible. Notons aussi que la filia, l'amour dans la coopération, connaît plusieurs niveaux. Aristote l'a bien noté, en mettant au sommet l'amour conjugal et au dernier rang celui qui unit une bande de malfaiteurs. Le but de l'alliance a une importance qui ne peut être mise de côté. La parole donnée nous fait en quelque sorte passer du stade de respect à celui de l'engagement dans la durée. Dans le cas des plus sérieux, on peut aller jusqu'à exiger un serment solennel, c'est le personnel à sermenter. Être une personne engagée n'est pas avoir pour mission la dérision, la calomnie et le mépris, comme on constate dans d'autres circonstances. La fidélité à la parole donnée était un des fondements de la société médiévale. La trahison, la félonie, étaient considérées comme des crimes odieux passibles de sanctions les plus graves. Ça a même été un des principaux griefs faits au Qatar, qui niait la valeur de la parole donnée et que l'on considérait à ce titre comme infréquentable. Je voudrais m'attarder un peu sur l'amour conjugal, qui est un domaine où la fidélité est particulièrement importante. Le mariage est toujours assimilé à un serment qui ne peut être annulé par un simple traité de plume. Il a été remis en honneur par Jean-Paul II, en particulier dans sa dimension physique. Mais il avait déjà été longuement analysé par Saint-Paul dans son épître, autrement je crois c'est au Colossiens. On devrait dire et proclamer, comme l'a dit Saint-Paul, que l'acte conjugal consiste à ne faire qu'un corps. Cet acte a une dimension sacrée, ce n'est certes pas la seule, mais c'est une dimension réelle, car il est à l'origine de la naissance d'un autre corps dans lequel Dieu insuffle une âme à son image, selon une alliance que le péché originel n'a pas rompue. Parmi les phrases de saint Paul, citons « Le corps de la femme ne lui appartient plus, il appartient à son mari, et le corps du mari appartient à la femme. » Au sujet d'éventuelles unions avec des prostituées, il ajoutait « Vous êtes le corps du Christ, vous n'allez quand même pas lui faire un avec celui d'une prostituée. » Tel est le sens profond de la phrase de l'Évangile, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je répète, dans l'acte conjugal, il y a la fusion des corps et avec peut-être, pas forcément, mais peut-être, la génération d'un corps dans lequel Dieu insufflera une âme. S'il est normal et souhaitable que l'amour conjugal prenne racine dans une attirance réciproque, il prend avec le mariage une toute autre dimension et va bien au-delà de la joie bien réelle et bonne de la communion physique. Sinon, le conjoint n'est plus qu'un objet de plaisir, on dirait actuellement une poupée gonflable. Un amour authentique peut être vécu dans le sacrifice, comme le relatent mains écrits historiques ou romanesques, dont les plus touchants sont ceux d'hommes se dévouant à des femmes impotentes ou devenues inertes mentalement, ou de femmes attendant avec une longue patience, sans limite, un mari parti au loin. De Pénélope à Solveig en passant par Griselidis, qui, dit-on, mourut de joie dans les bras de son mari à son retour de la croisade. Non, l'acte sexuel n'est pas analogue à boire un verre d'eau comme le prétendait Lénine. Il s'agit d'un engagement profond dans notre vie, conduisant à la sainteté. Cela confirme en passant la valeur du célibat consacré. Si ce célibat consistait à se priver de plaisirs mauvais, il ne serait qu'une bonne pratique analogue à la sobriété. Mais il s'agit de choisir entre deux voies voulues par notre Créateur, faire la route tout seul sous le seul regard de Dieu ou à deux en engendrant de futurs fils de Dieu. L'indéniable grandeur de la première voie n'annule pas la valeur de la seconde. C'est dans une famille que le Christ a voulu naître, vivre et grandir. Il reste la fidélité à des causes plus universelles. Le plus souvent, on pense à la patrie, aux guerres. Mais il y a aussi des missions qui peuvent être imprévues et de longue durée. Il peut alors y avoir une véritable hiérarchie de devoirs, le plus haut étant naturellement la fidélité à Dieu, ce qui peut conduire au martyr. L'exemple le plus frappant est celui de ces guerriers, Saint Maurice, Saint Sébastien, qui se sont désarmés volontairement, décidés à n'offrir aucune résistance à leurs persécuteurs, offrant leur vie, tout en priant Dieu de pardonner à leur bourreau. C'est là le sommet de la fidélité. En conclusion, la fidélité est l'oubli de soi-même, l'effacement de ses désirs devant un devoir, un amour plus grand. C'est une véritable valeur qui donne à nos choix un sens véritable. Le pusillanime, la girouette qui flotte à tous les vents, mérite surtout une grande compassion. Même dans l'histoire contemporaine, des exemples fourmis d'hommes et de femmes qui ont renié leurs promesses, qui ont tourné casaque, comme on dit familièrement, dès que les conséquences d'une promesse se révélaient trop exigeantes, que ce soit par peur des conséquences ou par intérêt financier. Ils montraient ainsi leur servitude, en général vis-à-vis de l'argent, un maître impitoyable et méprisable en tant que tel. Il y a aussi ceux qui se laissent dominer par leurs instincts, au point d'oublier leur simple dignité. On se demande alors s'il était raisonnable de confier de hautes responsabilités à des débauchés notoires. S'il est vrai que de célèbres hommes politiques n'ont d'une carrière célèbre mais médiocre qu'à l'heure rare de retourner la veste, comme Sieyès révolutionnaire régicide qui termina pair de France sous Louis XVIII, la fidélité a fait la gloire des véritables héros, de tous les martyrs. Dieu est fidèle, comme le programme des Écritures, et le Christ lui-même, lorsqu'il demande à saint Thomas, ne sois pas incrédule, mais fidèle. Respect, service, fidélité sont à mon avis des valeurs qui en valent bien d'autres. On pourrait certainement trouver d'autres. Je ne me prétends pas le futur législateur de la société à venir. Eh bien, je vous quitte maintenant pour aller travailler sur une histoire de l'Église et je commencerai par un tableau de la société gréco-romaine au moment où apparut le christianisme. Je vous souhaite un bon été. En principe, je continuerai un autre laïus le mois de juillet.